n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler en ce lundi matin d'une passion au sens propre que j'ai dans la vie, ne rien faire. Contrairement à ce que l'on pense, c'est très dur de ne rien faire et ce n'est pas pour rien justement que de multiples textes ont été écrits sur la question. Paresse, oisiveté, fainéantise, entre méthodologie et éloge, je n'ai pourtant rien lu jusqu'ici sur ce qui caractérise mon rapport premier à l'inactivité, la flemme.
Je te présente ma copine la flemme, je la connais depuis le lycée. On dit que c'est une fille à problème, qu'elle ne fout rien de ses journées. Quand je me traîne, c'est parce qu'elle m'entraîne à ne faire que procrastiner. Demain j'aurai plein de trucs à faire, les trucs d'hier que j'ai pas fait. La flemme.
Pour décrire l'inactivité, les mots ne manquent pas. On parle de paresse, de procrastination, d'oisiveté, de fainéantise, d'inertie et même de léthargie. La flemme fait elle aussi partie de ce champ lexical et j'avoue, j'ai un attachement tout particulier à elle. Car elle n'a ni la noblesse de la paresse, dont les éloges sont légion, ni la dimension biologique, voire pathologique de la léthargie, et encore moins la portée psychologique de la procrastination. Même le mot « flemme » sonne mollement. Il rappelle les adolescents affalés sur leur canapé et ses soirées à regarder son téléphone portable dans le vide. Dans le dictionnaire, j'ai découvert que c'était en fait un terme assez récent, en tout cas en France. Arrivé seulement dans notre langue à la fin du XVIIIe siècle, il naît d'abord en Italie, au XIIIe siècle, dérivé de la flegme, cette humeur noire qui freine et empêche l'action. Après cela, on l'a rencontré de ci, de là chez des écrivains, Zola, Verlaine, Mallarmé, Colette, qui parlera d'une fougue flemmarde et fataliste qui la guide, puis Blaise Cendrars. En 1948, dans Bourlinguer, c'est d'ailleurs lui qui officialise l'expression « avoir la flemme ». Voilà, on a la flemme, naturellement, fatalement. C'est tout le paradoxe de la flemme d'ailleurs, elle contient en elle cette puissance d'annihiler toute initiative, réfléchie, voulue, décidée, et même tout sentiment, sensation claire et distinct. Elle a ce pouvoir contradictoire d'immobiliser l'être au point de ne même pas laisser la possibilité, à la différence de la paresse ou de l'oisiveté, de l'apprécier. Comment faire alors quand on a la flemme? Peut-on même d'ailleurs faire quelque chose?
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Non, j'écris.
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pratiqué, mais bien sûr malgré moi, la flemme. Je suis très souvent frappée par elle. Manque d'envie, de curiosité, avec cette sensation ambiguë entre douleur et plaisir d'être scotchée à mon lit. C'est pourtant une compagne retorse. Elle ne s'annonce jamais, elle s'abat sans crier gare, et souvent au mauvais moment, produisant dans le même temps inertie et culpabilité, nous poussant à la regarder dans les yeux, à se demander pourquoi parfois, eh bien, on n'a plus la force ou l'envie. Toutefois, ce qui est remarquable avec la flemme, c'est que même si elle est cette puissance fatale qui nous immobilise, eh bien elle ne s'installe jamais. Elle a l'élégance de ne pas se cultiver. On a la flemme, puis on ne l'a plus. Ce n'est pas une maladie qui s'incorpore, un mal incurable, ni un état qui se recherche. Ce n'est pas un art à la manière de la paresse qui se drape dans la majesté de l'inaction. La flemme, elle, se situe précisément entre le bien et le mal, à la fois fréquente et intempestive. Pas grave, mais sérieuse quand même. Voilà ce qui est frappant dans la flemme. Elle n'est ni aimable, ni détestable, ni enracinée, ni désirée. La flemme est à son image, sans pourquoi. Elle est là, seulement là. Nous mettant face à la nécessité des choses, face à l'impuissance naturelle de l'homme, et tant qu'on y est, sa finitude, face à l'absurdité de leitmotiv poussant à réagir, face à notre télé ou notre téléphone. Car rien n'y fait. Et on ne peut rien en faire, rien n'y faire. Faut-il alors seulement subir, attendre que ça passe? Reste-t-il malgré tout la possibilité au moins de s'en contenter?
Sortir c'est pour les nuls, de toute façon j'ai pas la thune, je reste avec moi-même, j'ai la flemme.
Dans le dictionnaire, encore une fois, il est précisé que la flemme est la version familière de la paresse. Et je crois qu'il y a dans ce familier tout ce qui en fait une compagne, malgré tout non pas aimable, mais acceptable. Elle est nôtre, elle vient de nous, elle nous est donc familière, mais elle a cette capacité de nous mettre, pour un instant, à côté de nous, à côté de nos pompes et de la plaque. La flemme, parce qu'elle ne peut ni être recherchée ou éradiquée, cultivée ou seulement subie, aimée ou détestée, a ainsi quelque chose de nous. Je crois même que la flemme, c'est moi. Un fantôme, une évanescence, une image, un négatif de moi. Mais pas foncièrement un négatif négatif, sombre, péjoratif, mais l'envers de moi. dépouillée de tout et juste nécessairement là. Voilà, la flemme, c'est moi.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.